Vous écoutez On lit pour vous.
L'Association québécoise des journalistes de ELGBTQI+ voit le jour. Un texte de Benoît Valois-Nadeau paru le 1er septembre 2025 dans Le Devoir. Une nouvelle association de journalistes destinée aux membres des minorités sexuelles et de genre voit le jour. L'Association québécoise des journalistes de ELGBTQ+ ou l'AQJ+ se donne la double mission de défendre les intérêts de ses membres et de mieux faire connaître les réalités de ces communautés dans le milieu médiatique. Les membres de la communauté LGBTQ+ sont de plus en plus visibles dans les salles de nouvelles du Québec, comme dans toutes les sphères de la société. Mais leurs défis demeurent méconnus et parfois mal compris. Avance Quentin Dufresne, président fondateur de l'AQJ+ et journaliste à la presse canadienne. On est de plus en plus visible dans les salles de rédaction, mais il reste quand même des défis. Ça peut être de l'intimidation, de la discrimination, avec des impacts sur la santé mentale, surtout dans le contexte actuel qui est très polarisé, explique M. Dufresne en entrevue au Devoir. L'AQJ+ se veut donc un espace sécuritaire pour regrouper les membres des différentes communautés sexuelles et identitaires, lequel est pensé par eux et pour eux. Notre premier volet d'action, c'est d'abord de se retrouver entre nous, entre membres des communautés, mais aussi du même milieu professionnel pour échanger ensemble, se retrouver, s'entraider et échanger sur nos réalités, sur nos enjeux. Résume Quentin Dufresne. L'AQJ+ compte ainsi s'inspirer de l'AJL, l'Association des journalistes lesbiennes, gays, bi, trans et intersexes, créée dans un but semblable en France en 2013. Des regroupements similaires existent aux États-Unis. La NLGJA, fondée en 1990, et dans d'autres pays européens. Si le premier président de l'AQJ+ n'hésite pas à dire que les salles de nouvelles québécoises sont ouvertes à la diversité sexuelle et identitaire, il relève tout de même quelques points d'achoppement dans le traitement médiatique réservé aux questions LGBTQ+. À commencer par des enjeux très terre-à-terre comme l'utilisation du sigle de ELGBTQI+, qui varie souvent d'une salle de rédaction à l'autre, ainsi que l'emploi de l'écriture inclusive ou encore l'utilisation du pronom « IL » pour désigner les personnes non-binaires. C'est tout un débat qui vient peut-être d'une peur de perdre du lectorat. Sauf qu'on parle de personnes et d'une réalité qui sont bien présentes. C'est une question qui va se poser longtemps, analyse Quentin Dufresne. Intégrité et crédibilité. L'organisation naissante, qui peut aussi compter sur l'ancien journaliste de Radio-Canada, Denis Martin Chabot, à titre de trésorier, compte aussi défendre l'intégrité et la crédibilité de ses membres. C'est sûr qu'il y a cette crainte d'être perçu comme un militant. Et pour une carrière journalistique, être qualifié de militant, c'est pas mal être barré. Cette peur que notre neutralité et notre image publique soit écorchée parce qu'on est queer et qu'on aimerait traiter un sujet queer existe, constate Quentin Dufresne, qui a aussi travaillé à La Presse et au journal Métro. On fait tous notre travail dans les règles de l'art et dans le respect de la déontologie, a-t-il tenu à rappeler. Oui, j'ai mon œil particulier, comme tout journaliste qui a une spécialité. C'est aussi le beau côté du journalisme aussi. C'est qu'on a l'œil pour voir des sujets que ne traiteraient pas nos autres collègues. L'AQJ+ se donne aussi comme mission de participer à la démystification des enjeux liés à la diversité sexuelle et de genre au Québec. Ça pourrait être des formations sur comment faire des entrevues avec une personne non-binaire ou trans, ou encore un guide sur la façon de traiter ces enjeux, illustre M. Dufresne en précisant que les moyens d'action seront choisis démocratiquement par les membres. À ce chapitre, l'AQJ+ ouvre ses portes à tous les professionnels des médias, mais aussi aux étudiants et aux retraités du milieu médiatique. L'association compte aussi écouter et soutenir les journalistes qui ne souhaiteraient pas dévoiler publiquement leur identité sexuelle ou de genre. En journalisme, comme pour d'autres métiers dans la sphère publique, il peut y avoir cette crainte de s'afficher par peur de se voir refuser des opportunités. Le journalisme n'est pas épargné par tout ça, comme c'est le cas en politique ou dans le sport professionnel, constate M. Dufresne. L'AQJ+ a tenu un lancement auquel étaient conviés les membres des médias et du grand public le 4 septembre 2025. C'était l'Association québécoise des journalistes 2-ELGBTQI+, voit le jour. Un texte de Benoît Valois-Nadeau, paru le 1er septembre 2025 dans Le Devoir.
Consentement, Paris gagnant? Une enquête de Véronique Laurent, Manon Legrand, Sabine Panet et Nolwenn Veller, paru le 3 juillet 2025 dans Axel. Introduire le concept de consentement dans le code pénal. Check pour la Belgique, check pour la Suède, en cours pour la France. Dans ces trois pays aux situations diverses, avec variations autour du patriarcat, quel est l'impact de ce qui est présenté comme une avancée indiscutable? Cette modification vise à diminuer les violences sexuelles en luttant contre l'impunité et la culture du viol. A-t-elle des effets pervers? Toutes les femmes sont-elles concernées de la même façon? En Belgique, deux affaires de viol ont récemment fait parler d'elles. Celle de Louvain, d'abord. Une étudiante a porté plainte contre un étudiant en novembre 2023. Le 1er avril dernier, l'homme a été jugé coupable de viol. La jeune femme, sous l'emprise de l'alcool, ce qu'ont prouvé des caméras de surveillance, a été estimée incapable de consentir. Or, depuis 2022, notre nouveau code pénal, chapeauté par la notion de consentement, reconnaît explicitement l'alcool parmi d'autres éléments pouvant empêcher de consentir à une relation sexuelle. Cette nouvelle définition a-t-elle facilité la condamnation? Peut-être pas. Une notion déjà présente. Jusqu'alors, un viol, c'était toute pénétration commise sur une personne qui n'y consent pas. La notion de consentement était déjà présente, pointe l'avocate Sophie Gorlet. De plus, la loi considérait de façon non exhaustive et a conservé cette disposition que le consentement était impossible en cas de ruse, surprise, violence, menace de la part de l'agresseur, profit de la position de vulnérabilité de la victime. Ce qui change principalement, la loi liste désormais de nouvelles situations, toujours non exhaustives, où il ne peut y avoir consentement. Lorsque l'acte à caractère sexuel a été commis en profitant de la situation de vulnérabilité de la victime, due notamment à un état de peur, à l'influence de l'alcool, de stupéfiants, de substances psychotropes ou de toute autre substance ayant un effet similaire, à une maladie ou à une situation de handicap, altérant le libre arbitre. Le texte spécifie aussi que le consentement peut être retiré à tout moment, avant ou pendant l'acte. Pour Lisbeth Stevens, directrice adjointe de l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes, il y a 10 ans, l'affaire de Leuven ne serait peut-être jamais arrivée devant les tribunaux. La magistrate Gillonne Tordoir, présidente du tribunal de première instance du Hainaut, est d'un autre avis. N'importe quel tribunal aurait pris la même décision que le tribunal de Leuven, il y a des années. Dans le nouveau code pénal, le législateur n'a fait que consacrer les avancées jurisprudentielles. Toutes les décisions prises précédemment, de la Cour de cassation, notamment en matière de consentement. Une récente décision de cette Cour, deuxième affaire, illustre ses propos. En 2021, un homme a un rapport sexuel avec une femme qui a consommé alcool et stupéfiants. Fin 2024, la Cour d'appel de Liège condamne l'homme pour viol, mais il se tourne vers la Cour de cassation. Les faits datant de 2021, la nouvelle loi ne s'applique pas, argumente-t-il. En mars dernier, la Cour de cassation confirme sa culpabilité. L'absence de consentement était déjà prise en compte par le Code pénal au moment des faits. Mais alors, à quoi sert la nouvelle définition? Retour en arrière. La simplification et la modernisation de l'ensemble de notre Code pénal, rédigé en 1867, était déjà en chantier sous les 2 dernières législatures. Le précédent gouvernement Vivaldi, composé des partis libéraux, socialistes, socio-chrétiens et écologistes, a fait voter en premier lieu le chapitre sur les crimes sexuels. « C'est une priorité absolue », rappelait début 2022 le ministre de la Justice Vincent Van Kickenborn. Il s'agissait aussi pour la Vivaldi de se mettre en conformité avec la Convention d'Istanbul. Selon les statistiques de la police, 12 viols et 13 atteintes à l'intégrité sexuelle sont déclarés chaque jour. C'est énorme, et pourtant c'est une goutte d'eau. À peine 16% des faits de violence sexuelle, hors contexte familial, ont fait l'objet d'une déclaration, chiffre 2021. L'ancienne secrétaire d'État à l'égalité des genres, Sarah Shields, a beaucoup communiqué sur les changements dans la loi. Il permettrait de mieux prendre en compte l'expérience des victimes tout en envoyant un message clair aux auteurs de violences sexuelles. Meilleure prise en compte de l'expérience des victimes. La réalité est peut-être plus nuancée. Quant au message adressé aux auteurs, est-il vraiment clair et largement entendu? Au moment du passage de la loi, le débat s'est joué au Parlement bien plus que dans la société. En Suède, il a fait rage, comme en France actuellement. Une discussion d'importance, car réfléchir aux conditions qui permettent ou non le consentement n'est pas seulement un débat juridique d'experts et d'expertes. Pour les victimes, les effets sont bien réels. En France, les risques du consentement. La proposition de loi française prévoyant une définition du viol basée sur la notion de non-consentement est actuellement discutée par les parlementaires. Mise à jour, elle a été adoptée le 18 juin dernier en première lecture par le Sénat. Aujourd'hui, il faut montrer que l'auteur a usé de violence, contrainte, menace, surprise, VCMS, explique la professeure de droit Audrey Darsonville, favorable au nouveau texte. C'est difficile, surtout en cas de sidération de la victime. Avec la nouvelle loi, on va demander au partenaire comment il s'est assuré qu'elle était consentante. Mais certaines féministes s'interrogent, voire s'opposent à cette nouvelle définition, estimant les pièges du consentement trop nombreux. C'est un terme d'agresseur, dit Anna Chiese, écoutante au collectif féministe contre le viol, qui accompagne des victimes depuis 40 ans. C'est ce que nous racontent les femmes au téléphone. Il a dit que j'étais consentante. Elles sont colonisées par ce discours que l'on doit ensuite déconstruire. C'est vraiment un mot pour embrouiller les esprits. Les précautions avancées par les députés pour définir le consentement, qui devra être libre de toute coercition, risquent de ne pas faire le poids face à la culture du viol qui imprègne la société, y compris les juges. La norme sociétale à partir de laquelle un juge va apprécier les éléments circonstanciels de chacun des dossiers, c'est la norme pornographique, explique l'avocate Lorraine Questio. Or, que nous dit la pornographie? Que les femmes consentent en permanence à tout, même quand elles disent non, même quand on les torture. Les partisanes de la nouvelle loi répondent que l'examen des circonstances environnantes mentionné dans le nouveau texte, permettra de documenter les rapports d'autorité et donc d'identifier des consentements extorqués. Mais ces garanties ne risquent-elles pas d'être soufflées par la force des apparences, par exemple lorsqu'une victime a signé un contrat dans le cadre d'une relation thérapeutique ou sur un tournage de film pornographique? Autre réserve, la mise en parallèle implicite du sexe et du viol. Le viol, ce serait du sexe sans consentement. Mais le sexe et le viol sont deux choses différentes et c'est un problème que certains hommes puissent penser que c'est pareil, résume la philosophe Manon Garcia. Consentir n'est pas ce que font les femmes quand elles veulent avoir un rapport sexuel, éclaire la juriste américaine Catherine McKinnon, auteure du livre « Le viol redéfini, vers l'égalité contre le consentement ». Flammarion 2023. C'est tellement triste de consentir, appuie Anne-Cécile Malfer, présidente de la Fondation des femmes. C'est se dire qu'il y a quelqu'un qui propose et quelqu'un qui consent. Et cela signifierait que le viol, c'est du sexe qui a vrillé, alors que c'est l'acte prémédité d'un agresseur qui a une stratégie. Vous écoutez Consentement, Paris gagnant? Une enquête de Véronique Laurent, Manon Legrand, Sabine Panet et Nolwenn Veller, parue le 3 juillet 2025 dans Axel. La Suède à l'heure du bilan. Le problème ne réside pas dans la loi, mais dans le fait que le système juridique et la société, encore caractérisés par des conceptions dépassées en matière d'égalité, ne parviennent toujours pas à rendre justice aux personnes vulnérables, avance Ida Ostenson de l'association Child X qui lutte contre l'exploitation sexuelle des enfants. Ida Ostenson a beaucoup milité pour la loi sur le consentement, qui avait pour ambition d'améliorer la prise en charge des violences sexuelles par la justice et de protéger l'intégrité physique et sexuelle des femmes. Votée en 2018, elle a redéfini le viol par le critère de participation non volontaire à la relation sexuelle, précédemment par l'usage de la violence, de menaces ou d'une situation de vulnérabilité particulière de la victime. En février dernier, 7 ans après son adoption, BRA, le Conseil national pour la prévention de la criminalité, a publié un rapport d'évaluation de la loi. Principale conclusion, elle fonctionne en grande partie. Depuis 2018, les plaintes, les poursuites et les condamnations augmentent. On est passé de moins de 4000 plaintes en 2015 à plus de 6000, signe d'un éveil de conscience aux violences sexuelles grâce à la loi, mais aussi à MeToo. D'après BRA, les plaignantes sont maintenant pour moitié des adolescentes, majoritairement dans un contexte où l'agresseur est une connaissance. L'âge médian d'une victime déclarée est de 20 ans, 24 auparavant. Ces chiffres étayent certains arguments belges et français insistant sur la dimension pédagogique d'une telle loi. En Suède, une population jeune, mieux informée, porte davantage plainte. Une police et une justice disposant d'une législation présentée comme plus protectrice pour les victimes décident plus souvent de donner suite au dossier. La législation ne suffit pas. Mais le modèle suédois présente aussi des failles. La loi n'a pas du tout aidé la majorité des femmes et des filles et n'a pas diminué la violence sexuelle, souligne Adine Samadi, présidente de ROX, organisation féministe active depuis 40 ans, rassemblant 64 refuges pour jeunes filles et femmes. Dans le pays, 90% des atteintes sexuelles ne font toujours pas l'objet d'une plainte et beaucoup de victimes craignent encore la police, rapporte Cecilia Bodker-Pedersen, secrétaire générale de l'organisation d'aide aux victimes de violences sexuelles Stora Syster, pourtant favorable à la loi. Les victimes, tout comme les organisations de terrain, déplorent que seulement une petite portion des violences sexuelles signalées fasse l'objet de poursuites, 13%, et encore moins de condamnations, entre 7 et 10%. C'est formidable de savoir qu'un viol est illégal, ironise Adine Samadi. Mais s'il n'est pas sanctionné, que disons-nous à la société? Que si vous êtes violé, vous devez vous débrouiller. Le gouvernement, la police et la justice ne vous aideront pas. Pour diminuer les viols en Suède, il faut changer les normes et nous avons du travail, résume Ida Ostensen. D'autant que, au royaume de l'égalité, notamment connu pour sa loi de 1999, unique au monde, pénalisant l'achat de services sexuels, la violence sexuelle se transforme. Nous observons une normalisation croissante de la commercialisation du corps des jeunes filles, considérée au moment du vote de cette loi comme une violence contre les femmes. Et les acheteurs sont de plus en plus jeunes, s'inquiète-t-elle. Tant ROX que Childex témoignent aussi de l'augmentation de la consommation de porno très violent par les jeunes hommes, avec des conséquences dramatiques. Dans les refuges, nous hébergeons des femmes qui pensent qu'elles doivent accepter d'être étranglées ou battues pendant les rapports sexuels, que c'est normal. Elles ne disent pas non parce qu'elles pensent qu'elles sont censées consentir à ce type d'acte, souligne Adine Samadi. La Suède, 7 ans après la loi, est sur une ligne de crête. D'un côté, des femmes plus informées au non, de l'autre, des hommes s'autorisant de plus en plus à leur soutirer un oui. Retour en plat pays. En Belgique, on l'a vu, la jurisprudence avait déjà fait son œuvre. Il n'y a pas de changement du point de vue purement juridique. Mais on dispose désormais d'un référentiel commun clair, sur lequel nous, les parquets, pouvons nous appuyer dans nos dossiers, constate la substitute liégeoise Nadia Laouar, également coordonnatrice d'un réseau d'expertise en matière de criminalité contre les personnes pour le Collège des procureurs généraux. C'est un des effets pédagogiques de la loi sur la chaîne judiciaire. Avec un impact sur les chiffres? Pour viol et atteinte à l'intégrité physique, les plaintes ont augmenté de 20% entre 2019 et 2023, total de 11 210 dossiers entrant en 2023. Grâce surtout à un travail de fond sur l'accueil des victimes, retrace Lisbeth Stevens, directrice adjointe de l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes. Cellule d'accueil spécialisée, EVA, dans les commissariats, récolte des preuves et approches intégrées dans les centres de prise en charge des violences sexuelles, CPVS. Cependant, les traitements sans poursuite pénale, classement sans suite, ont augmenté dans la même proportion. Vous écoutez « Consentement, Paris gagnant » Une enquête de Véronique Laurent, Manon Legrand, Sabine Panet et Nolwenn Veller, paru le 3 juillet 2025 dans Axel. Effet boomerang. En mai dernier, la ministre de la Justice Annelies Verlinden communiquait que dans les dossiers de violences sexuelles, de 5 sur 10 classés sans poursuite pénale en 2023, il n'y en avait plus que 4 sur 10 en 2024. Mais la présidente du tribunal de première instance du Hainaut, Gilone Tordoire, se demande si, par l'introduction de la notion de consentement dans le texte légal, qui n'a fait qu'intégrer la doctrine et la jurisprudence existantes, des affaires qui antérieurement auraient donné lieu à un classement sans suite ne sont pas portées devant les juridictions. Cet afflux de dossiers difficiles, où il faut analyser le défaut de consentement, pourrait peut-être, pense-t-elle, provoquer une réaction épidermique de la part de magistrats, magistrates, et influer sur les statistiques de condamnation, sans même parler des retards qui s'accumulent et des moyens du secteur bien en dessous des moyens. Autre retour. Des avocates spécialisées dans la défense de victimes notent une ouverture à leurs argumentaires. Sophie Gourlay, Marie Zallier ou Caroline Poiré disent obtenir actuellement des condamnations. Au prix toutefois de longues plaidoiries, listant les conséquences du trouble de stress post-traumatique, de l'emprise, etc. Et il faut voir si ces condamnations sont toutes maintenues en appel. Avec le nouveau code pénal, la charge de la preuve n'est pas renversée et le prévenu est toujours estimé innocent. On l'oublie, avertit Gilone Tordoire, sauf dans certaines situations, notamment endormissement, état d'inconscience dû à l'absorption d'alcool ou de drogue, pour lesquelles il existe une présomption de défaut de consentement. Dans ce cas, il suffit au prévenu d'évoquer une explication suffisamment crédible, appuyée d'éléments matériels, pour ne pas être condamné. La magistrate cite une affaire récente. Une femme dépose plainte contre son compagnon pour un viol initié alors qu'elle dort. Lui explique n'avoir pas pu déterminer son non-consentement parce que leur relation était au beau fixe jusque-là, ce que la plaignante confirmait. Résultat, acquittement. Dans ce type d'affaires, on ne sait que difficilement ce qui s'est passé avant le dépôt de plainte, s'il y a eu une dispute ou autre chose, déroule Gilone Tordoire. Et a posteriori, on peut regretter une relation sexuelle, mais la justice n'est pas là pour sanctionner ça. Il semble donc qu'il y ait peu d'évolution dans les décisions impliquant la prétendue zone grise, qui sert en réalité à masquer l'extorsion du consentement. Cet escamotage du forçage fait partie de la culture du viol qui normalise les violences, avec son fameux « elles disent non, mais elles pensent oui ». Un rapport du Conseil supérieur de la justice établit par ailleurs qu'un certain nombre de professionnels semblent, trop souvent, se laisser aller à des stéréotypes et s'adonnent à du « victim blaming », blâmer la victime, sans s'en rendre compte. Elles disent oui et elles pensent non. Second volet du nouveau code pénal en matière d'infractions sexuelles, toujours sous le chapeau général du consentement, la dépénalisation partielle du proxénétisme. La législation ne punit plus le fait pour un opérateur ou une agence de conclure un accord légal avec un travailleur du sexe qui agit de manière libre et consentante, nous communique Damien Van der Merch, l'un des artisans de la réforme, avocat général à la Cour de cassation. Dans la foulée, un contrat de travail sexuel voit le jour il y a un an, insistant toujours sur le consentement. Contrairement à l'association Utopie, qui a mené un intense lobbying politique en faveur de la nouvelle loi, d'autres ASBL de terrain, dont ICAR, entre deux ou Isala, affirme que ce contrat ne correspond pas aux besoins de la majorité des personnes prostituées. Les femmes déjà sous statut indépendant n'ont aucune raison de vouloir se placer sous l'autorité d'un employeur. Ils ne sont d'ailleurs que trois à avoir demandé leur agrément. Pour toutes les autres, c'est-à-dire la majorité d'entre elles, très souvent des femmes migrantes, ce contrat est hors de propos. et les conditions de précarité ainsi que l'emprise du milieu sont telles qu'elles peuvent de toute façon difficilement agir de manière réellement libre et consentante. On en demande trop au Code pénal. L'introduction du consentement permet-elle de diminuer les violences sexuelles? La réponse diverge selon les contextes nationaux. Dans le cas de la Suède, la nouvelle loi, dans la foulée de MeToo, a permis des améliorations qui ne font pas le poids face à la culture du viol et aux violences sexuelles liées à la pornographie. Quant à la Belgique, l'impact est difficile à prouver si l'on regarde uniquement les cours de justice. Au final, le parcours d'une femme qui se déclare victime de viol reste un champ de mine. Le taux de condamnation, partout, est insultant. Les quelques condamnés exécutent rarement une peine, qui prévient difficilement la récidive. Comme le ramasse la juriste Isabelle Wattier, on en demande trop au Code pénal, qui ne peut pas résoudre les inégalités de genre d'un coup de marteau magique. Si la société, à travers toutes ses institutions, éducation, culture, n'est pas déterminée à appliquer les règles de droit dans une perspective d'égalité, à quoi servent-elles? Et surtout, à qui? Attention, le consentement se retourne contre celles qui peuvent le moins s'exprimer, en dépit des tentatives féministes pour éviter les pièges de ce mot aux multiples interprétations, pointe des expertes européennes. Anna Zobnina, présidente du Réseau européen des femmes migrantes, constate que dans les situations impliquant les plus vulnérables sur notre continent, mariage forcé, gestation pour autrui, industrie de la pornographie, traite des êtres humains, le concept de consentement est utilisé par des exploitants pour se dédouaner. La priorité est-elle de permettre ce à quoi des femmes disent consentir ou d'interdire ce qui nuit à leur dignité et à leur intégrité, à toutes? Comme un écho à d'autres voix entendues dans les trois pays, Anna Zobnina estime que le consentement est inadapté en droit pénal, car il appréhende les parties comme étant sur un pied d'égalité, dans l'ignorance des rapports de pouvoir asymétriques entre les femmes et les hommes. L'Europe du consentement. Les pays européens peuvent être classés selon quatre grandes catégories de définition du viol. 1. C'est un viol si la victime n'a pas donné son accord de façon explicite. Espagne, Suède. 2. C'est un viol si la victime a montré son non-consentement même sans dire mot. Belgique, par exemple. La France vient d'adopter cette vision. Il y a des conditions prévues par la loi, non exhaustives, dans lesquelles le consentement pourrait ne pas être valide. 3. C'est un viol s'il y a eu usage de violence, contrainte, menace ou surprise. France. Définition en cours de changement. Belgique. Ancienne définition. 4. C'est un viol s'il y a eu usage de contrainte ou de violence physique. Hongrie, Croatie. Depuis 2011, la Convention d'Istanbul, Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique, demande aux États d'intégrer le concept d'acte sexuel non consenti à leur arsenal législatif réprimant les violences sexuelles. La Belgique l'a ratifié en 2016. Au sein de l'Union européenne, la Directive commune sur les violences faites aux femmes, février 2024, n'intègre pas de définition commune du viol. La France et d'autres pays, Hongrie, Slovaquie, République tchèque notamment, s'y sont opposés. C'était « Consentement, Paris gagnant ?» Une enquête de Véronique Laurent, Manon Legrand, Sabine Panet et Nolwenn Veller, parue le 3 juillet 2025 dans Axel.
Combattre l'insomnie, une pensée à la fois. un dossier de Catherine Enfield, paru le 26 mai 2024 dans la presse. La surconsommation de somnifères est de plus en plus décriée, mais la détresse des insomniaques est bien réelle. On fait quoi, alors? On travaille sur ses comportements et sur ses pensées. Et ça fonctionne. Mieux que la médication. Incursion au cœur d'une thérapie cognitivo-comportementale pour traiter l'insomnie et exploration de la psyché des insomniaques. J'ai perdu la recette pour dormir. Je voyais mon conjoint qui dormait et je me disais « Maudit qu'il est chanceux, lui. Comment ça se fait que moi, je ne dors pas? » L'insomnie est arrivée dans la vie de Danielle Gélinas en même temps que la maternité il y a 44 ans. Assise dans une salle de réunion de l'hôpital du Sacré-Cœur de Montréal, dans le nord de la ville, l'enseignante à la retraite raconte les pensées qui surgissaient en pleine nuit quand elle voyait les heures défiler sur le cadran. « Ça fait 2 heures que je tourne. Je vais être fatiguée demain. 4 heures du matin. Déjà. » Danielle Gélinas en parle au passé, mais ses souvenirs sont récents. Après 3 ans d'attente, elle a obtenu une place ce printemps au sein d'une thérapie de groupe pour réapprendre à mieux dormir. La clinique du sommeil du Centre d'études avancées en médecine du sommeil figure parmi les seuls centres au Canada, sinon le seul, à offrir gratuitement à ses patients la thérapie cognitivo-comportementale pour l'insomnie. Il s'agit pourtant du traitement de première ligne contre l'insomnie, bien avant les médicaments comme les benzodiazépines et les hypnotiques en Z, dont la surconsommation est de plus en plus décriée. Les gens qui viennent nous voir nous disent « J'ai perdu la recette pour dormir », résume le neurologue Alex Desautels, directeur de la clinique. On leur redonne une espèce de marche à suivre pour bien dormir. 60 % à 80 % source insomnia, dit Lancet 2022. Pourcentage des personnes pour qui la thérapie a un effet thérapeutique. Environ 70 % des patients maintiennent leur gain clinique après 2 ans et 50 % après 10 ans. Parmi les patients qui répondent, la moitié sont en rémission complète. Danielle Gélinas sort l'agenda de sommeil qu'elle a tenu tout au long de la thérapie qui prend fin aujourd'hui. Chaque semaine, j'ai gagné en moyenne 20 à 30 minutes de sommeil par nuit, calcule-t-elle. Elle dort près de 7 heures par nuit maintenant. Et elle est super emballée. Milly Allary, qui souffre de fibromyalgie, fondait peu d'espoir dans la thérapie au départ. Son problème, ce n'était pas de s'endormir. Elle tombait comme une bûche à 22 heures, mais plutôt de rester endormie. Elle se réveillait vers 1 heure du matin et le cannabis médical lui permettait de rêvasser un peu en fin de nuit. Aujourd'hui, elle se couche à 23 heures et se réveille vers 4 heures, 5 heures. « Pour moi, c'est énorme », dit-elle. Les participants avaient tous des attentes réalistes, souligne Chloé Blanchette-Carrière, doctorante en psychologie clinique, et c'est une bonne chose. Vouloir être un dormeur parfait, ça met trop de pression et c'est illusoire. Tout le monde a de mauvaises nuits, rappelle-t-elle. Conditionnement. Pendant 6 semaines, les 6 participants ont appris à améliorer leur hygiène de sommeil, à dégonfler les pensées anxiogènes, voire obsessionnelles, qui accompagnent souvent l'insomnie et à déconstruire le conditionnement négatif qui s'est forgé au fil des années. L'insomnie est fréquente. Un tiers des gens traversent un épisode transitoire au cours de leur vie, souvent lors de circonstances spéciales, un mariage, un divorce, une promotion, etc. Quand le stress diminue, le sommeil s'améliore. Mais certaines personnes vont développer de mauvaises habitudes qui contribueront à rendre le trouble chronique. Marie-Hélène Penestri, chercheuse en sommeil et professeure à l'Université McGill, a plein d'exemples. Développer une dépendance à la médication, faire de longues siestes, se stimuler sur les écrans la nuit, carburer au café ou relaxer avec l'alcool. Se coucher plus tôt, même si on ne s'endort pas. Se forcer à dormir. 10% pourcentage de la population qui souffre d'insomnie chronique. Vous écoutez « Combattre l'insomnie une pensée à la fois », un dossier de Catherine Enfield, paru le 26 mai 2024 dans La Presse. Les gens finissent par associer le lit à la frustration de ne pas dormir, résume le neurologue Alex Desautels. Le système de stress s'active en soirée et culmine à l'heure du coucher. La pression augmente, les battements cardiaques aussi. Pas idéal pour s'endormir. Paradoxalement, la privation de sommeil est au cœur de la thérapie. Les participants établissent d'abord une fenêtre de 6 heures au cours de laquelle ils ont le droit de dormir la nuit. La dette de sommeil ainsi créée permet de vaincre l'état d'hyperactivité qui prévaut au moment du coucher, explique Alec Desautels. La fenêtre de dodo augmente graduellement pendant la thérapie. Autre consigne primordiale. Retirer l'accès à l'heure dans la chambre à coucher, trop anxiogène, et éviter de tourner trop longtemps dans le lit. Après 20 à 30 minutes, calculées subjectivement, on sort de la chambre et on fait une activité ennuyante jusqu'à ce que la somnolence revienne. Le lit doit être associé au sommeil et au câlin. Point. Les insomniaques doivent aussi prendre conscience des distorsions cognitives qui les habitent. Ça me prend absolument 8 heures de sommeil. Je vais mal dormir toute la semaine. Millie Allary, pour sa part, croyait qu'un adulte, ça devait se coucher à 22 heures, pas plus tard. Apprivoiser les pensées. On fait quoi quand les pensées surviennent? On essaie de les contrôler? Titulaire de la chaire de recherche du Canada en médecine comportementale du sommeil à l'Université Laval, Charles Morin conseille plutôt de les apprivoiser et de les remplacer par des pensées plus réalistes, plus constructives. Il s'agit de prendre un petit peu de recul et de se dire que ça ne sert à rien de paniquer à 2 heures du matin ou encore d'essayer de résoudre un problème, résume-t-il. Pour libérer l'esprit, les participants ont d'ailleurs un exercice d'écriture le soir pour coucher sur le papier les choses à régler. Au moment du coucher, ils font aussi un exercice de relaxation associé au sommeil. Et l'idée, c'est aussi d'apprendre à dédramatiser. Le sommeil, c'est important, mais il ne faut pas paniquer non plus, résume Marie-Hélène Pénestry. Le psychologue Charles Morin suggère une expérience. Après une mauvaise nuit de sommeil, on passe la journée allongée et on note d'heure en heure son humeur et son niveau d'énergie. Et on refait l'expérience au terme d'une autre mauvaise nuit, mais cette fois en planifiant des activités plaisantes ou énergisantes. À coup sûr, les gens conviennent qu'ils ont mieux fonctionné en restant actifs, constate Charles Morin. Des études ont montré qu'une nuit d'insomnie a peu d'impact sur les fonctions cognitives le lendemain, souligne Alex Desautels, qui ajoute que le cerveau s'adapte et change l'architecture du sommeil le lendemain pour le rendre plus profond. Autre fait apaisant, les insomniaques sous-estiment presque tous le nombre d'heures qu'ils dorment. Le participant Philippe Saint-Germain, qui souffre du syndrome des jambes sans repos, a eu plus de mal à appliquer les consignes et la thérapie a moins bien fonctionné pour lui. Mais il retient une leçon importante. Quand ça va mal, il ne faut pas se décourager, ça ira mieux plus tard, conclut-il. Une prescription spéciale. Des initiatives ont lieu dans le monde médical pour diminuer les prescriptions de somnifères. En janvier, le Collège des médecins a lancé un programme de surveillance de l'exercice pour les opioïdes et les benzodiazépines, Rivotril, Lativan, etc. Ces derniers mois, la campagne « Choisir avec soin » a produit des outils pour les médecins et les patients. Des capsules vidéo et une prescription non pharmacologique, tous deux inspirés de la thérapie cognitivo-comportementale. Plusieurs experts sont d'avis que les somnifères peuvent être bénéfiques en période de stress aigu, sur une base ponctuelle, mais la majorité des patients les consomment de façon prolongée, ce qui comporte des risques de dépendance et d'effets secondaires. La thérapie cognitivo-comportementale pour l'insomnie demeure peu accessible, tant au public qu'au privé. Vous écoutez « Combattre l'insomnie, une pensée à la fois », un dossier de Catherine Enfield, paru le 26 mai 2024 dans La Presse. Et si la température trop stable était en cause? Jérôme Siegel est une autorité mondiale en matière de sommeil. Il a mené plus de 300 études dans sa vie et publié dans les plus grands journaux scientifiques. Dans la dernière décennie, l'une de ses études a particulièrement marqué les esprits. Celle portant sur le sommeil des chasseurs-cueilleurs, publiée en 2015 dans Current Biology. Professeur en psychiatrie à l'Université de Californie à Los Angeles, Jérôme Siegel a dirigé une recherche dans trois tribus traditionnelles de Namibie, de Tanzanie et de Bolivie. Des gens donc dont le mode de vie se rapproche de celui de nos ancêtres sur le plan évolutif. Le professeur et son équipe ont constaté qu'ils dormaient pas mal comme nous. Ils se couchaient 3 heures après le coucher du soleil et dormaient entre 6 et 8 heures, mais que l'insomnie était pratiquement inexistante. Moins de 2% des chasseurs-cueilleurs en souffraient, contre 10% à 30% des gens vivant dans les sociétés industrielles. Joint en Californie, Jérôme Siegel se remémore une conversation qu'il a eue avec son interprète en Namibie, qui vivait désormais en ville mais qui venait de la tribu. Je lui ai demandé « Omar, as-tu déjà eu de la difficulté à dormir? » Et il m'avait répondu « Oh oui, 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 oui. Il y a 3 ou 4 ans, je me suis cassé le bras, je n'avais pas dormi de la nuit, ça me faisait trop mal. » Se souvient Jérôme Siegel, encore amusé par l'anecdote. Le terme insomnie n'existait tout simplement pas dans la langue des sangs en Namibie, ni dans celle des Timanes en Bolivie. Bien sûr, le mode de vie occidental diffère de celui des chasseurs-cueilleurs à bien des égards. L'alcool, la cigarette, la sédentarité, la nourriture industrielle, l'obésité, les téléphones intelligents le soir, la solitude, le stress au travail. Le professeur Jérôme Siegel observe toutefois une autre différence, peut-être centrale dans l'équation. La fluctuation de température. Les membres des tribus se réveillaient au lever du soleil, ce qui correspond au retour de la lumière, mais aussi à la période la plus fraîche du cycle de 24 heures. Décalage des signaux. En Californie, souligne Jérôme Siegel, tout est climatisé. Les maisons, les voitures, les lieux de travail, les magasins. La température est stable, toujours. Or, depuis des centaines de milliers d'années, le corps humain évolue en réponse aux variations quotidiennes de température, tant à la chaleur de l'après-midi qu'à la fraîcheur du petit matin. Nous vivons, dit Jérôme Siegel, dans une situation qui n'a jamais existé dans l'évolution humaine en matière de variations de température. Il y a toutes les raisons de croire qu'il y a un décalage avec les signaux pour nous réveiller et nous endormir. Les bébés non plus ne ressentent plus vraiment les fluctuations de température. Quel en sera l'effet? Le professeur Siegel mène une étude pour comparer le sommeil de rongeurs qui grandissent à une température fixe à celui de rongeurs qui grandissent au rythme de la température. Je m'attends à ce qu'ils aient un rythme de sommeil différent à l'âge adulte, précise-t-il. Concrètement, comment appliquer cette théorie, à part faire du camping son mode de vie? Jérôme Siegel conseille aux gens ayant de la difficulté à dormir de réduire la température dans leur chambre à coucher. La température minimale devrait être atteinte à l'heure du réveil, au lever du soleil, dit-il. Et on devrait aussi apprendre à tolérer les chaleurs de 3 heures de l'après-midi. Une perspective évolutive. Quelle est la fonction du sommeil? Le professeur Jérôme Siegel propose une fascinante théorie basée sur l'évolution. pourquoi l'éléphant d'Afrique, un grand herbivore, dort environ 2 heures par jour, tandis que le lion, un carnivore, en dort 14. Rien à voir avec la grosseur de leur cerveau ou leur capacité cognitive, selon Jérôme Siegel. Ce serait plutôt une affaire d'énergie. Le succès des espèces dépend en outre de l'équilibre entre l'apport en nourriture et la dépense d'énergie, rappelle-t-il. Le nombre d'heures de sommeil dont chaque espèce a besoin serait donc intimement lié à leur niche écologique et à leurs besoins en matière d'alimentation. Être éveillé 24 heures ne serait pas une bonne façon de perpétuer l'espèce. On se reproduirait à un rythme énorme jusqu'à la famine, dit-il. Vous écoutez « Combattre l'insomnie, une pensée à la fois », un dossier de Catherine Enfield, paru le 26 mai 2024 dans La Presse. Dans la tête des insomniaques. L'insomnie est un trouble multifactoriel, mais certaines tendances se dégagent. Des chercheurs, dont la sommité mondiale Charles Morin, titulaire de la chaire de recherche du Canada en médecine comportementale du sommeil à l'Université Laval, nous aident à comprendre qui sont les insomniaques. Génétique. Il existe des bases génétiques à l'insomnie qui ne sont toutefois pas encore bien identifiées, indique le neurologue et chercheur Alex Desautels. Il y a souvent des histoires familiales d'insomnie, souligne-t-il. Certaines personnes, dit-il, ont plus de difficultés à désengager les structures d'éveil. Le fait d'être une femme augmente aussi le risque de développer de l'insomnie. Probablement que plusieurs gènes ont un effet marginal sur le phénotype de l'insomnie qui sont modulés par l'environnement, estime Alex Desautels. Personnalité. Les insomniaques sont en général moins extravertis que les bons dormeurs. Ils sont aussi plus enclins à ressentir les émotions négatives et souvent plus anxieux et plus perfectionnistes que la moyenne des ours. Une personne qui a une tendance à s'inquiéter beaucoup de tout et de rien dans la vie va amener ces inquiétudes-là au lit, souligne Charles Morin. Émotion. C'est caricatural, poursuit-il, mais je dis souvent que les bons dormeurs disent ce qu'ils ont à dire le jour et dorment le soir, tandis que les insomniaques, il y a beaucoup de « si » et de « j'aurais dû ». Ils ne veulent blesser personne, mais ils ne s'affirment pas toujours comme ils le devraient. Rumination. Tandis que les bons dormeurs pensent à n'importe quoi avant de s'endormir, les insomniaques ont tendance à ressasser leurs inquiétudes. Sur les tracés électroencéphalographiques, les insomniaques présentent plus d'ondes rapides associées à l'activité cérébrale et moins d'ondes lentes associées à la relaxation que les bons dormeurs. Environnement. Le sommeil est très fragile à ce qui se passe dans notre environnement, souligne Marie-Hélène Pénestri, psychologue et chercheuse en sommeil. Il existe des environnements moins propices au sommeil, rappelle Mme Pénestri, qui pense au bruit, à la lumière ou encore à un contexte de violence à la maison. On ne peut pas se laisser aller à s'endormir, dit-elle, quand on est inquiet de notre environnement. Santé. Plusieurs problèmes de santé, physique ou mental, peuvent contribuer à l'insomnie. La dépression, le trouble panique, la douleur de façon générale, les allergies, les changements hormonaux. L'insomnie peut aussi être révélatrice d'un autre trouble du sommeil comme l'apnée du sommeil. Psychologique ou biologique? L'insomnie est-elle un problème psychologique ou un problème d'ordre médical? S'il y a une problématique qui rejoint un peu les deux composantes, c'est bien l'insomnie, répond Charles Morin. Si on dort mal, notre santé mentale et physique s'en ressent, et quand notre santé est mauvaise, le sommeil, il est souvent affecté. C'était « Combattre l'insomnie, une pensée à la fois », un dossier de Catherine Enfield, paru le 26 mai 2024 dans La Presse.
Saviez-vous que le jet bleu peut manger une souris? Un texte d'Alexandre Shields, paru le 21 août 2025 dans Le Devoir. Espèce commune au Québec, aisément reconnaissable à son plumage bleuté, le jais bleu est un oiseau particulièrement abondant, dont le régime alimentaire varié comprend même des rongeurs. Comme on peut le voir sur une photo prise à Montréal, un jais bleu adulte ne se nourrit pas uniquement d'insectes, de graines et de fruits. Il peut aussi chasser une souris pour s'en nourrir, comme l'a fait cet individu avant de dévorer une partie de la petite bête sur place, directement sur le toit d'un immeuble résidentiel. Selon ce que précise le guide de poche « Oiseaux du Québec et du Canada », le régime alimentaire de cette espèce commune, en toute saison au Québec, comprend en effet des rongeurs, mais aussi d'autres petits animaux comme des batraciens ou encore d'autres oiseaux. Son élégance cache un côté sombre. C'est un pillard de nid où il dévore les œufs et les oisillons, soulignent d'ailleurs les auteurs du guide d'identification à propos de cet oiseau, dont l'envergure d'aile atteint une quarantaine de centimètres et qui est reconnaissable à son cri strident que certains associent au bruit d'une corde à linge rouillée. Oiseau abondant. Par ailleurs, en plus de ses aptitudes de chasseur, le jais bleu fait partie des espèces d'oiseaux dont la population se porte bien. Contrairement à plusieurs autres espèces de la faune aviaire, selon les données comptabilisées dans le deuxième atlas des oiseaux nicheurs du Québec méridional, qui le présente comme un nicheur résident abondant. L'ouvrage précise que si la population nord-américaine a globalement diminué au fil des ans, celle du Canada a plutôt connu une croissance de 30 % avec notamment une hausse marquée au Québec. Vous avez d'ailleurs très probablement déjà aperçu un jais bleu en ville, à la campagne ou en pleine nature. Il faut dire qu'en plus d'être polyvalent en matière de régime alimentaire, il est en mesure de s'adapter à différents types d'habitats. Il n'hésite d'ailleurs pas à fréquenter les mangeoires, et ce, même lorsque celles-ci ne sont pas adaptées à sa taille et à son poids. C'était « Saviez-vous que le jais bleu peut manger une souris? » Un texte d'Alexandre Shields, paru le 21 août 2025 dans Le Devoir.